Donc bonsoir à tous, séance du 9 novembre 2023, c'est notre deuxième séance sur la question du temps. Alors lors de la première séance le 30 octobre, nous avons mené une réflexion générale sur la question du temps. Nous nous sommes interrogés d'abord sur l'expérience que nous en avons. Nous nous sommes demandé en quoi consiste la réalité du temps. Et puis aussi, s'il est possible de le définir. Et à défaut d'une définition, nous avons montré qu'il y a deux images opposées du temps, pour représenter son caractère irréversible, l'image de la flèche et l'image du fleuve. Selon la flèche, le temps semble aller du passé vers l'avenir. Selon le fleuve, le temps semble venir au contraire de l'avenir et aller vers le passé. C'est ce que nous avions dit la dernière fois, je résume rapidement. Alors, aujourd'hui, en mettant, je vais parler de Saint-Augustin, je veux dire Augustin, hein, parce qu'il est devenu saint plus tard. Hein, bon. Eh bien, justement, je vais vous parler d'un auteur qui est le premier philosophe à avoir... considérait que le temps, finalement, relevait essentiellement de la conscience. Alors, il ne dit pas la conscience, il dit l'âme. Mais bon. Et par conséquent, ce philosophe et théologien que je vais vous présenter aujourd'hui se rattache, lui, plutôt à l'image du fleuve. Si je dois le rattacher ici à une image, c'est plutôt l'image du fleuve. Le temps est appréhendé par la conscience comme le passage du présent au passé, comme cet écoulement, c'est le terme qu'emploie Augustin, cet écoulement par lequel le présent devient temps passé. Je cite par exemple ici, mais on aura l'occasion de le revoir, et ce qu'écrit Saint-Augustin donc au livre 11, chapitre 14, « Le présent n'est un temps que parce qu'il s'écoule et devient un temps passé. » Alors, si la pensée d'un philosophe n'était que le témoignage d'une conception particulière liée à une époque, elle n'aurait qu'un intérêt documentaire. Mais la portée d'une philosophie va au-delà du contexte particulier dans lequel elle est apparue. Elle a une portée universelle. Et, en ce sens, les analyses d'Augustin ont toujours un intérêt pour nous. Il est d'ailleurs, comme je l'ai dit, le premier philosophe qui enracine le temps dans la subjectivité humaine, alors que les philosophes qui le précèdent, dans l'Antiquité, rattache le temps à la cosmologie, à la question de la nature, vous voyez ? Bon. Et donc, il est le premier, vous voyez, à choisir cette voie. Et il va être connu au XXe siècle comme un précurseur de ce courant philosophique qui va prédominer, d'ailleurs, au XXe siècle, qui est celui de la phénoménologie. Alors, phénoménologie, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire étude, au fond, des choses telles qu'elles apparaissent à la conscience. Et parmi les philosophes qui se rattachent à ce courant, citons quelques noms. D'abord le premier, Husserl, qui est le fondateur, au fond, de ce courant. Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Lévinas, et j'en oublie. Et dans son ouvrage consacré à la question du temps, le philosophe Edmund Husserl, ouvrage qui s'appelle « Leçons sur la phénoménologie de la conscience intime du temps », paru en 1905, et bien dans cet ouvrage, Husserl rend un hommage appuyé à Augustin. Je le cite, « Le premier qui ait profondément ressenti la violence des difficultés de l'analyse de la conscience du temps et qui est peiné sur elle, presque jusqu'au désespoir, fut saint Augustin. » Donc c'est dans le livre 11 des Confessions, qu'Augustin entreprend sa réflexion. Vous trouvez facilement les confessions dans les collections de poche. Vous avez d'ailleurs une petite collection remarquable, Folio Plus, où vous avez le livre 11. Vous voyez ? Et donc, je vous ai photocopié de très larges extraits, mais disons que ça commence à partir du chapitre 10, jusqu'à la fin, chapitre 31. Mais je n'ai pas, gardé les premiers, sinon il y en aurait... Alors, donc, gardez-les, hein, parce que la fois prochaine, j'en photocopierai quelques exemplaires, mais pas autant. Alors, avant de montrer le cheminement d'Augustin, donc dans ce fameux livre 11 des Confessions, je voudrais dire quelques mots, bien sûr, sur sa biographie. Je vais le présenter, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent, vraiment, en fait, Saint-Augustin. Alors, c'est un berbère. Il naît en 354 à Thagaste, qui est situé à l'est, au nord-est, de l'actuelle Algérie, aux confins de l'Empire romain. Et situé d'ailleurs plus à l'est de Thagaste, que se trouve dans l'actuelle Tunisie, Carthage, la ville de Carthage. L'ancienne grande cité punique a été écrasée par les Romains et qui est devenue la capitale de la province romaine d'Afrique du temps d'Augustin. Alors Augustin vit dans une époque de crise où l'Empire romain se désagrège peu à peu, notamment sous le coup des invasions barbares. Et d'ailleurs, c'est en 410 que Rome est mise à sac par les troupes d'Alaric, le chef des Visigoths. Il faut savoir que, de toute façon, Rome était déjà en déclin. Ce n'était plus la ville la plus importante de l'Italie. Milan était plus importante. L'empereur, je crois, ne résidait plus, d'ailleurs, à Rome. Mais bon. Et puis, c'est l'année de sa mort, en 430, que se trouve assiégée donc, la cité d'Hippone, dont Augustin est devenu l'évêque depuis 395. Et la ville est assiégée par les Vandales, l'année même de sa mort, 430. Alors, Augustin écrit ses confessions en 4 ans, de 397 à 401. C'est-à-dire, au fond, à partir du moment où il est évêque d'Hippone, il ne va cesser d'écrire, de rédiger des œuvres. La première importante, ce sont les confessions. C'est son œuvre la plus connue, mais ce n'est pas la seule. Il faut citer deux autres grands ouvrages de la Trinité, qu'il met 20 ans à écrire, de 399 à 419, et puis la Cité de Dieu, qui est un autre très grand ouvrage d'Augustin, qu'il met 15 ans à écrire, de 412 à 427, et vraiment, c'est un ouvrage important. Alors, Augustin, donc, né dans une famille modeste, il grandit entre un père païen. Alors, païen, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement que la religion païenne, c'est la religion de l'époque chez les Romains, enfin, la religion de beaucoup de peuples, religion polythéiste. Hein, bon. Donc, il grandit entre un père païen, sans relief, et une mère assez écrasante, qui est une chrétienne fervente et assez austère. Elle s'appelle Monique. Et si vous lisez les confessions, vous entendez parler de Monique assez souvent dans les confessions. Alors, c'est une femme d'une grande force de caractère qui voue un véritable culte à son fils et a pour lui de très, très grandes ambitions, mais qui est prête également à lui fermer sa porte au nom de l'orthodoxie chrétienne quand elle apprend qu'il est devenu l'adepte du culte manichéiste. Parce qu'avant d'être chrétien, il était maniché. Il était adepte du culte manichéen. Alors, on dirait aujourd'hui, c'est une mère castratrice. Au point d'ailleurs qu'Augustin préfère lui mentir lorsqu'il s'en va à Rome. Il part pour Rome en 383. Il en parle d'ailleurs, hein. Bah parce qu'il a besoin d'indépendance, hein. Franchement, il faudrait qu'elle soit un peu plus loin. Alors, initialement, je répète, Augustin n'était pas chrétien. Il était donc manichéen. Et c'est plus tard, hein, après sa conversion, d'ailleurs qui a lieu à Milan, qu'il deviendra l'évêque d'Hippone, qu'il deviendra l'un des grands-pères, des pères, pardon, pas des grands-pères, l'un des pères de l'Église chrétienne. Hein. Bon, c'est la référence des chrétiens, pendant des siècles, y compris des catholiques et des protestants, pendant les guerres de religion. Hein, ils se réfèrent sans cesse à Saint-Augustin hein, pour faire taire les autres, mais tous se réclament, se revendiquent de Saint-Augustin. C'est la grande référence du philosophe Pascal. Pascal se réfère sans cesse à Augustin, à Saint-Augustin. Et il deviendra le grand théologien qui élabore la doctrine du péché originel. Donc l'importance d'Augustin est considérable. Vraiment, ce que vous lisez du Pascal, c'est une reprise, d'une certaine façon, de ce que dit saint Augustin. Alors, après avoir fait des études de rhétorique latine à Carthage, il revient à Tagaste, où il enseigne. Bon, c'est pas assez bien pour lui, ni pour sa mère. Elle préfère qu'il aille à Carthage. Carthage, la ville importante hein, de la région. Et oui, c'est là d'ailleurs qu'à Carthage, il a adopté le manichéisme, hein, qu'il est devenu adepte du manichéisme. C'est un courant religieux qui s'organise en petites sociétés secrètes. Hein. Il s'agit, il faut en parler, hein, du manichéisme. Il s'agit d'une doctrine dualiste selon laquelle donc le monde est éternel et se trouve livré à l'affrontement de deux principes, le principe de la lumière, le principe du bien, et puis le principe de l'obscurité, les ténèbres, donc le mal. Alors, revenu à Tagaste, après ses études, sa mère, comme je vous l'ai dit, refuse de le recevoir, puisqu'il est devenu manichéen. Ouais, c'est un scandale. Mais elle y consent bientôt, à la suite d'un songe qui lui révèle que son fils rejoindrait le droit chemin. Et elle n'avait pas tort. Alors, Augustin, donc le futur évêque d'Hippone, n'est pas non plus un jeune homme très sage et très abstinent, comme on pourrait l'imaginer. Quand il vient à Carthage faire ses études, il commet souvent le péché de chair, et avec des femmes qui ne sont pas toujours recommandables. Il en parle au début du livre 3 des Confessions. Hein, je vous cite ce passage, il commence comme ça. « Je vins à Carthage, où je me trouvais aussitôt environné de toutes parts des feux de l'amour infâme. Je n'aimais pas encore, mais je désirais d'aimer. » Et puis alors, il raconte ses turpitudes, il raconte que dans sa jeunesse, il volait des poires, mais rien que pour le plaisir de voler. Il n'avait pas forcément envie de les manger, c'est le simple plaisir de transgresser. Il y a toute une réflexion assez intéressante sur son itinéraire. Hein. Bon, allez, après avoir enseigné la rhétorique à Tagaste, donc en 373, il enseigne donc à Carthage, dans une ville donc qu'il estime beaucoup plus à la hauteur de ses ambitions, et où il peut enseigner à de riches jeunes gens de bonne famille. Et puis ensuite, il part en Italie. Alors, il va d'abord à Rome, qui n'est plus la ville reine de l'Empire romain, et où il connaît quelques déboires. Et ensuite, il va à Milan, plus importante à l'époque, où il est appelé par le préfet Symmaque, un certain Symmaque. Et pourquoi est-il appelé par Symmaque ? Pour ses qualités d'orateur. Il est capable de prononcer des discours destinés aux autorités, à l'empereur, aux personnages importants. Donc il l'apprécie pour ses qualités oratoires, ses qualités de rhéteur. Et le préfet Symmaque espère également qu'Augustin lui permettra de lutter contre l'influence montante du christianisme. Et vraiment, les chrétiens sont de plus en plus embêtants. Alors, bon, les païens, ça va, les néoplatoniciens, ça va. Bon, ben, les chrétiens, bon, ils sont de plus en plus importants et puis ils sont assez intolérants. Et vraiment, Symmaque voudrait bien que Augustin l'aide, je dirais, à lutter contre cette influence. Et vous savez que c'est à l'époque d'Augustin que l'empereur Théodose va imposer le culte chrétien, à un moment donné. Constantin est le premier à se faire baptiser chrétien, mais c'est Théodose qui va vraiment imposer dans l'Empire romain la religion chrétienne, à un moment donné. Bon. Alors, c'est à Milan que la vie d'Augustin va basculer. Il rencontre l'évêque chrétien Ambroise, un homme très cultivé, pétri de philosophie grecque, pétri surtout de platonisme. Alors, ça, c'est une chose très importante. Augustin est imprégné de philosophie néo-platonicienne. Le grand philosophe néo-platonicien, c'est Plotin, qui imprègne beaucoup Augustin. C'est-à-dire que le christianisme, en tant que doctrine, a été fortement marqué par la philosophie grecque. C'est indéniable. La seule différence, c'est que dans la philosophie grecque, il n'y a pas d'idée de création. Voilà. Alors, donc, cette rencontre, bien sûr, va être décisive. Et Augustin va se convertir au christianisme, puisqu'il reçoit le baptême, en 387. Alors, il retourne en Afrique en 388, s'installe à Hippone. C'est l'actuelle ville d'Annaba, qui se trouve dans le nord-est de l'Algérie aussi. Et il en devient évêque, comme je le disais tout à l'heure, en 395. Et c'est alors qu'il élabore son œuvre, tout en participant activement à la construction et au développement de l'Église chrétienne d'Afrique. Alors là, il lutte sur plusieurs fronts. Contre le paganisme, d'abord, les religions polythéistes, comme celle des Romains, contre le manichéisme, qui est maintenant un ennemi, si vous voulez, qu'il connaît donc très bien, et comme il connaît bien, il peut lutter efficacement contre lui, mais aussi contre des hérésies chrétiennes. Alors, le donatisme vient d'un évêque de Carthage qui s'appelait Donna, et puis aussi le pélagisme. Et là, je vais en parler du pélagisme, parce que c'est assez important. C'est une hérésie, alors c'est sûr, c'est plus tard ça, c'est une hérésie initiée par un moine originaire de Grande-Bretagne, Pélage, qui a été chassé de Rome par l'invasion d'Alaric et qui se réfugie donc en Afrique. Et d'ailleurs, Schopenhauer, dans le texte que nous avons lu, parle de cela, parle de l'opposition entre Pélage et Augustin. Si vous regardez le texte, vous verrez ça. Le pélagisme, qu'est-ce que c'est? C'est une doctrine qui, comme celle d'Augustin, met au centre le libre arbitre humain. Sur ce point, il y a ici une conjonction. Donc le libre arbitre est à l'origine du mal, ce qu'on appelle le péché, si vous voulez. Mais, à la différence d'Augustin, Pélage nie toute idée de péché originel. C'est-à-dire que l'homme est pécheur par lui-même, du fait de sa seule responsabilité. Et il lui revient, par conséquent, de faire bon usage de son libre arbitre pour accomplir le bien qui est voulu par Dieu. Pour Pélage, donc, l'homme ne porte pas la marque du péché originel qui l'incline à faire le mal. Et si l'homme parvient à ne point pécher en faisant un bon usage de son libre arbitre, eh bien, cela signifie que l'intervention divine, sous la forme de la grâce, n'est aucunement nécessaire à son salut. Pour Augustin, au contraire, le péché originel exige effectivement l'intervention de la grâce divine pour permettre à l'homme d'accéder au salut. Il y a une différence importante. Bon, mais vous voyez, c'est une présentation, ça vous donne une idée de qui est saint Augustin, du rôle qu'il a joué. Mais là, je vais vous parler maintenant précisément du livre 11, des Confessions. Alors, dans une certaine mesure, on peut lire les analyses d'Augustin sur le temps en faisant, comme le philosophe Husserl, comme le font beaucoup de philosophes aujourd'hui, en mettant de côté les considérations théologiques sur la création qui encadrent ces analyses. On peut faire ça. Je crois que, par exemple, dans un de ses livres, Ricoeur, Paul Ricoeur fait ça. Alors, cette lecture est tout à fait possible, mais elle n'est pas fidèle au projet d'Augustin. D'une certaine façon, cette lecture fait violence au texte. Pourquoi ? Parce que Augustin ne pense pas comme les phénoménologues, il ne pense pas le temps à partir de lui-même, il l'appréhende par référence à l'éternité. Alors évidemment, il faut expliquer ici ce que signifie ce terme d'éternité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que concevoir le temps, pour Augustin, c'est d'abord comprendre ce qui le sépare justement d'éternité. C'est prendre conscience que l'éternité est radicalement différente du temps et qu'elle est hors temps. Et là, je vous renvoie au premier texte que j'ai photocopié, la page 1, le chapitre 11, regardez le chapitre 11, et vous avez ligne 16 à 20. Voilà, on va lire ça. On peut même dire à partir de la ligne 14. Puisqu'au lieu que la durée du temps ne se forme que de plusieurs mouvements passagers et qui ne seraient passés tous ensemble, voilà ce que j'ai souligné, l'éternité, au contraire, n'a rien en soi qui se passe, mais que tout y est présent. Ce qui ne se rencontre point dans le temps, dont il n'y en a nul où tout soit présent, puisque tout le passé est chassé par l'avenir, et que tout l'avenir succède au passé. À ce passage, on va y revenir, hein. Il faut bien l'avoir en tête. Ce que je voudrais dire, c'est que l'éternité ne peut pas être confondue avec l'immortalité ou la perpétuité. Parce que, au fond, dans la conception, l'usage courant du terme, immortel, éternel, c'est pareil. Là, non, c'est pas pareil. Un être immortel n'est pas éternel s'il s'agit d'un être qui a une naissance. Il a une naissance, c'est-à-dire qu'il débute dans le temps. Simplement, il ne meurt pas. Vous voyez ? Alors, il y a des êtres immortels qui sont éternels. Être éternel, c'est forcément être immortel, hein, ça c'est sûr. Mais être immortel, c'est pas forcément être éternel. Vous voyez ? De la même manière, un être qui ne naîtrait ni ne mourrait et qui durerait infiniment pourrait très bien ne pas être éternel. Il ne serait pas éternel s'il était soumis au changement, s'il était soumis à des modifications dans le temps. Alors, on dirait de cet être que c'est un être perpétuel. Mais ce n'est pas un être éternel. Est éternel ce qui se trouve vraiment, radicalement, hors du temps. Est éternel l'être qui ne change pas de mode d'être, qui ne se modifie pas. Et pourquoi il ne se modifie pas ? Parce qu'il est parfait et entier. C'est-à-dire qu'ici, il faut ici bien dire les choses, c'est que l'être éternel n'est pas simplement un être immuable. Ça ne suffit pas, hein, pour le caractériser. S'il est immuable, c'est en raison de sa perfection. C'est en raison de sa plénitude. Vous voyez ? Et l'être éternel, par définition, c'est Dieu. Dieu qui est éternel parce qu'il est tout entier présent à soi. Et on voit par là que le présent, ce qu'on appelle le présent, ce n'est pas initialement une détermination du temps. Le présent, c'est d'abord une marque de l'éternité. Mais, en tout cas, ce qui est clair pour Augustin, c'est ainsi que le présent, au départ, se caractérise. C'est le présent de l'être éternel, d'un être qui est indéfiniment présent, qui est infiniment présent, qui est complètement présent à soi. Et donc, le seul vrai présent, en ce sens, c'est celui d'éternité. Et ce n'est que de manière dérivée et secondaire que le présent désigne un moment passager. Mais alors, à ce moment-là, ce présent exprime une forme de déchéance. Et c'est ce que nous allons voir. C'est en effet déchoir que d'être soumis au passage, que d'être soumis à cet incessant mouvement qui va de l'être au non-être, et qui est celui du présent temporel. Voyez ? Et là encore, je reprends l'extrait que je vous ai cité tout à l'heure, je le reprends parce que je crois qu'il faut le redire, hein, il faut le relire. Regardez bien. Puisqu'au lieu que la durée du temps ne se forme que de plusieurs mouvements passagers et qui ne sauraient passer tous ensemble, l'éternité, au contraire, n'a rien en soi qui se passe, mais que tout y est présent. Tout y est présent. C'est-à-dire, au fond, un temps qui serait une absolue simultanéité ne serait pas un temps. Vous voyez ? L'éternité, c'est ce qui fait que tout est présent. Tout y est présent. Oui ?
Et quelle différence, du coup, avec le perpétuel ?
Il n'y a pas de modification. Ce qui est éternel demeure ce qu'il est, sans variation, sans changement, sans modification. Vous voyez ? Donc, simplement, je voulais indiquer que le temps est succession. L'éternité exclut la succession. Et donc, c'est une pure hypothèse. Si on imaginait un temps où tout serait simultané, ce ne serait plus un temps. Hein ? Ce serait l'éternité. Bon, mais si on a bien compris que l'éternité est radicalement distincte du temps, qu'elle est hors temps, le problème qui va se poser pour Augustin, c'est le problème de la création. Comment concilier l'éternité, l'éternité divine, avec la création du monde ? Création qui apparaît comme un événement qui commence dans le temps. Apparemment, c'est contradictoire. Apparemment, c'est incohérent. Vous voyez, Dieu, l'être éternel, c'est le créateur. Mais alors, si on dit qu'il est le créateur, ça veut dire que le monde commence. Qu'il y a un événement qui se déroule dans le temps. Comment concilier ces deux idées ? Alors, c'est pourquoi, d'ailleurs, les autres philosophes, les manichéens, et puis les néo-platoniciens, enfin, qui sont les philosophes qui ont pignon sur rue à la même époque, considèrent que l'idée de création est une idée absurde. C'est une idée absurde. Et pour les néo-platoniciens, au fond, tous ces philosophes qui se rattachent originellement à Platon, hein, le grand philosophe grec Platon, Plotin, etc. Et là, pour ces philosophes, Dieu, il n'y a pas de création. L'idée de création, c'est quelque chose de complètement invraisemblable pour un grec. Absolument invraisemblable. Le monde n'est pas créé. Alors comment effectivement, par exemple, Platon envisage-t-il ici l'intervention divine, l'action divine ? Eh bien, Dieu, c'est comme un artisan, un démiurge, qui met en forme et qui organise la matière. Mais la matière n'est pas créée. C'est-à-dire que le Dieu, vous voyez, agit comme l'artisan qui se transforme une matière qui lui est préexiste. Mais la matière n'est pas créée. La matière est éternelle, si vous voulez. La matière préexiste à l'action de l'artisan divin. Vous voyez, au fond, pour les Grecs, l'action divine, c'est une production. Ce n'est pas une création. Et parler de création, c'est au contraire considérer que Dieu ne dépend d'aucune matière qui lui préexisterait et qui le conditionnerait. Création ex nihilo, hein, c'est-à-dire que la matière elle-même surgit de l'acte créateur. Mais alors, cette idée de création, est-ce qu'elle ne revient pas, comme je l'ai dit, à retirer à Dieu sa plénitude éternelle. Soutenir une telle idée, est-ce que ce n'est pas situer l'action divine dans le temps ? Alors il y aurait ainsi un avant et puis un après. Un avant la création, un avant l'apparition du monde, puis il y aurait un après. Un avant la décision divine et puis un après. Et à ce moment-là, qu'est-ce que disent les philosophes qui s'opposent à l'idée de création ? Mais alors qu'est-ce qu'il faisait Dieu avant la création ? Qu'est-ce qu'il foutait ? Hein ? Bon. Pourquoi il n'a pas créé avant ? Bon. Vous voyez, c'est le genre de question qu'il soulève en forme d'objection. Et d'ailleurs, vous allez voir, vous voyez, comment dirais-je ? Regardez le titre d'un des paragraphes. Paragraphe 12. Ce que Dieu faisait avant la création du monde. Vous voyez ? Il répond à ce genre d'objection. Alors, bon, donc dans les chapitres 10 à 13, il va répondre à ce genre d'objection. D'abord, première chose, affirmer que la volonté divine engendre du nouveau, ça c'est la première objection qu'on lui fait, enfin, excusez-moi, ce n'est pas la réponse d'Augustin. Est-ce que affirmer que la volonté divine engendre du nouveau en créant le monde, est-ce que ce n'est pas considéré qu'une modification s'est produite en Dieu. Il s'est modifié. Et donc, à ce moment-là, un tel changement dans la volonté divine contredit son éternité. Varier, changer, se modifier, ce n'est pas le propre du Dieu éternel. Bon. Ensuite, comment concevoir un état antérieur à la création ? Comment concevoir l'apparition d'une volonté nouvelle dans un présent éternel ? Que faisait Dieu avant la création ? Eh bien, pour Augustin, le monde n'est pas créé dans le temps, car le temps lui-même est créé par Dieu. Voilà la réponse qu'il va falloir comprendre. Hein ? Le monde n'est pas créé dans le temps, et le temps lui-même est créé par Dieu. C'est-à-dire le temps lui-même est une créature. Et je vous invite à regarder la réponse qu'il fait au chapitre 13, donc toujours page 1, le texte qui se trouve en bas à droite, à partir de la ligne 15. Puis donc que... Alors il s'adresse à Dieu. Alors, j'aurai l'occasion de vous dire pourquoi il s'adresse à Dieu tout à l'heure, hein, mais là, regardez bien. « Puis donc que vous êtes le créateur de tous les temps. S'il y en a eu quelqu'un avant, que vous eussiez fait le ciel et la terre, comment peut-on dire que vous demeuriez alors sans rien faire, puisqu'au moins vous faisiez le temps. Vous faisiez ce temps. Et ainsi, il ne se peut point faire qu'il se soit passé du temps avant que vous fissiez le temps. Que s'il n'y a point eu de temps qui ait précédé ciel et terre, pourquoi demandera-t-on ce que vous faisiez alors, vu qu'il n'y avait point d'alors ou il n'y avait point de temps ? » Ah, faut suivre. Alors, si vous voulez, il y a de deux choses l'une. Soit il y avait du temps avant la création. Mais alors Dieu était le créateur de ce temps, c'est-à-dire on remonte indéfiniment, on repousse la question. Soit il n'y en avait pas, soit il n'y avait pas de temps avant la création, et la question de ce que faisait Dieu pendant ce temps, où il n'y avait pas de temps, est manifestement absurde. Donc, vous voyez, voilà comment, ici, Augustin répond. Et pour Augustin, parler de création divine, c'est, d'une part, refuser d'assimiler l'acte divin à une production, à une fabrication, à laquelle préexisterait la matière, sur le modèle anthropomorphique de la production humaine. C'est-à-dire qu'il estime que l'idée de production est anthropomorphique. envisager Dieu comme un artisan, c'est effectivement anthropomorphique. L'idée de création, elle, affirme la transcendance de Dieu. Transcendance mystérieuse, inaccessible, incompréhensible, mais qui ne le dépasse infiniment. Et si, effectivement, l'action divine était de l'ordre d'une production, bah, il y aurait effectivement un commencement et une fin. Vous voyez ? Une production, c'est un processus qui se déroule dans le temps. Bon, ça, c'est la première chose. Et d'autre part, penser la création divine, c'est considérer, comme je l'ai dit, que le temps lui-même est une créature. Ainsi, la création est sans antériorité. Elle est sans antériorité, elle est soustraite au temps. C'est-à-dire que l'acte de création ouvre un futur, mais il n'a pas de passé. Le temps créé ne s'adosse pas à un passé, ou alors s'il s'adossait à un passé, ce ne serait jamais que lui-même. Mais il s'adosse, comme l'écrit Augustin, je cite, « à l'aujourd'hui de l'éternité ». Et nous allons lire ce très beau texte, il se trouve, chapitre 13. Alors, c'est deuxième page, ça se trouve en haut à gauche. On pourrait relire comme ça ces textes après la séance. Et il s'adresse ici à Dieu, bien sûr. « Vos années ne vont ni ne viennent, ainsi que les nôtres vont et viennent, afin de se pouvoir toutes accomplir. Vos années demeurent toutes ensemble, dans une stabilité immuable, parce qu'elles sont stables et permanentes, sans que celles qui passent soient chassées par celles qui leur succèdent, parce qu'elles ne passent point. Mais les nôtres ne seront toutes entières accomplies que lorsqu'elles se seront toutes écoulées. Vos années ne sont qu'un jour, et votre jour n'est pas tous les jours, mais aujourd'hui, parce que votre jour présent ne fait point place à celui du lendemain et ne succède point à celui d'hier. Et ce jour présent dont je parle est l'éternité. » Alors, évidemment, Augustin utilise des métaphores. Il parle temporellement de ce qui n'est pas temporel, de l'éternité. Il utilise des métaphores pour essayer de dire l'éternité de Dieu. Les années de Dieu sont un jour qui dure toujours, un aujourd'hui parfait, un jour éternellement présent. Et voyez, quel est le procédé, au fond rhétorique, ici, d'Augustin ? Il s'agit pour lui, en quelque sorte, d'effectuer à même le temps la négation du temps. Effectuer à même le temps la négation du temps pour apercevoir justement l'éminence de l'éternel divin. L'éminence de l'éternel divin qui est incomparablement supérieur, infiniment supérieur à la condition de toute créature. Vous voyez, c'est une façon d'essayer de dire à travers le temps ce qui n'est pas justement de l'ordre du temps. Mais c'est de l'approcher de façon négative en quelque sorte. Et c'est en s'élevant à l'éternité de Dieu, par cette négation du temps à même le temps, que la créature humaine peut apercevoir aussi l'indigence du temps, la déchéance du temps, qui est marquée par la succession des jours et des années, qui ne cesse de disparaître pour laisser place à d'autres jours et à d'autres années. Vous voyez, nous vivons, nous, dans la succession, dans une suite d'apparitions et de disparitions. Pour Dieu est entièrement présent à lui-même, à tout. Tout lui est présent. Et c'est ça l'éternité. Et c'est par là encore que la créature humaine peut comprendre que le temps lui-même est une créature. Une créature qui dépend, comme toutes les créatures, de la volonté éternelle du Créateur. Alors, voyez la fin du chapitre. La fin du chapitre 15. Alors, c'est page 3 cette fois-ci. Ah non, excusez-moi. Non, c'est toujours page 2. Toujours page 2. Donc, c'est le chapitre 13. Donc, en haut, la fin du chapitre. Vous avez donc fait tous les temps par votre puissance, vous précédez tous les temps par votre éternité, et il n'y a point eu de temps dans lequel on ait pu dire « il n'y avait point de temps ». La formule, je pense qu'il faut retenir, c'est « vous précédez tous les temps par votre éternité ». C'est-à-dire qu'au fond, alors évidemment, ça c'est, pour nous, c'est mystérieux, c'est incompréhensible, c'est un mystère, c'est quelque chose que l'intelligence ne peut pas comprendre. Car la cause est éternelle et l'effet est temporel. C'est inaccessible à l'intelligence. Hein ? Et évidemment, il ne s'agit pas de dire que Augustin est en train de nous expliquer la création. Ce n'est pas possible. La création est un mystère. C'est un mystère. Mais simplement, il fait en sorte de configurer ce mystère. Il fait en sorte de le soustraire à toutes les interprétations anthropomorphiques qui reviennent d'une façon ou d'une autre à nier la transcendance de Dieu. Vous voyez, c'est ça, sa démarche. Mais il est clair que la création nous échappe. Hein, prétend pas ici la rendre compréhensible. Donc, et d'ailleurs, si vous avez bien compris tout cela, eh bien, vous allez voir aussi que cette approche exige une lecture de la Genèse, une lecture de la Bible, qui ne soit pas littérale. C'est-à-dire que on ne peut pas lire le récit de la Genèse, le récit de la création, de manière littérale. L'Écriture, il le dit d'ailleurs, hein, dans d'autres passages des Confessions, l'Écriture, c'est un recueil d'images, de métaphores, c'est un ensemble de formules enfantines, qui exige un travail d'exégèse. Et vous vous souvenez que les premiers mots de la Genèse, c'est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Eh bien, ces mots ne peuvent pas être compris, ne doivent pas être compris au sens d'une antériorité chronologique, mais au sens d'une antécédence ontologique, c'est-à-dire une supériorité, hein. De l'homme, du Dieu, pardon, pas de l'homme, c'est l'éminence de Dieu. Hein ? Et c'est pour ça que je reprends ma formule, je crois que c'est ça qu'il faut que vous reteniez, ce ne peut être par le temps que vous précédez le temps. Voyez ? Ce ne peut être par le temps que vous précédez le temps. Voilà, ça c'est cette formule-là, je pense, qui est la plus claire. Alors, après cette réflexion d'ordre théologique, qui montre à la fois donc que l'éternité est radicalement distincte du temps, qu'elle est hors du temps, et qu'elle est mystérieusement la cause qui engendre le temps, eh bien, nous allons aborder l'expérience humaine du temps. Et cette analyse commence au chapitre 14, dans un texte très célèbre que j'ai déjà eu l'occasion de lire lors de la première séance. Je ne sais pas s'il ne faut pas que je le relise, parce que je crois qu'il faut que vous l'ayez tous en tête pour bien comprendre ce que je vais vous en dire. Regardez le chapitre 14, qui se trouve donc page 2. Alors, c'est vraiment un texte très célèbre, qu'on ne se lasse pas de lire et de relire. Bon. Alors, on va le commencer... depuis le début, tant pis. Hein. Il n'y a donc point eu de temps où vous n'ayez fait quelque chose, puisque vous aviez fait le temps. Et nul temps ne vous sont coéternels, puisque vous demeurez toujours en même état, au lieu que s'il demeurait, il cesserait d'être des temps. Qu'est-ce donc que le temps ? Qu'est-ce donc que le temps ? Qui le pourra dire clairement et en peu de mots ? Et qui sera capable de le bien comprendre lorsqu'il en voudra parler ? Il n'y a rien toutefois qui soit plus connu que le temps, et dont il nous soit plus ordinaire de nous entretenir dans nos discours. Et lorsque nous en parlons, nous entendons sans doute ce que nous disons, et entendons aussi ce que les autres en disent quand ils nous en parlent. Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais bien. Mais si on me le demande et que j'entreprenne de l'expliquer, je trouve que je l'ignore. Je puis néanmoins dire hardiment que je sais, que si rien ne se passait, il n'y aurait point de temps passé, que si rien n'avenait, il n'y aurait point de temps à venir, et que si rien n'était, il n'y aurait point de temps présent. En quelle manière sont donc ces deux temps, le passé et l'avenir, puisque le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas encore? Et quant au présent, s'il était toujours présent et qu'en s'écoulant, il ne devint point un temps passé, ce ne serait plus le temps, mais l'éternité. Si donc le présent n'est un temps que parce qu'il s'écoule et devient un temps passé, comment pouvons-nous dire qu'une chose soit, laquelle n'a autre cause de son être sinon qu'elle ne sera plus? De sorte que nous ne pouvons dire avec vérité que le temps soit, sinon parce qu'il tend à n'être plus. Alors, je reprends ce texte, vous voyez. Je crois qu'il faut commencer par cette petite formule très simple, ce questionnement très clair, très simple, qui se trouve ligne 13, si vous voulez, juste après la question « qu'est-ce que donc le temps ?» Si personne ne me le demande, je le sais bien. Mais si on me le demande et que j'entreprenne de l'expliquer, je trouve que je l'ignore. Alors, quand on me pose la question de ce qu'est le temps, je sais ce que c'est. Je l'appréhende comme quelque chose. Et je ne suis pas seul, d'ailleurs, à l'appréhender ainsi, puisque, comme le dit plus haut Augustin, rien n'est plus ordinaire de nous entretenir du temps dans nos discours. Et d'ailleurs, quand nous en parlons, je le cite encore, nous entendons, c'est-à-dire nous comprenons sans doute ce que nous disons, et entendons aussi ce que les autres en disent quand ils nous en parlent. Nous ne cessons de parler du temps entre nous. Donc, si vous voulez, dans les faits, le temps est quelque chose dont nous sommes certains. Et cette certitude, on peut l'appuyer sur le témoignage de notre langage. Mais à partir du moment où je m'interroge sur sa nature, dès qu'on me pose la question « mais qu'est-ce que le temps ?», alors cette certitude vacille. Mon esprit s'embrouille. Et je finis par reconnaître que le temps n'est pas un être. Je finis par reconnaître qu'il relève du non-être. Vous voyez, d'un côté, le langage nous assure que le temps existe, qu'il est quelque chose, qu'il est bien quelque chose. Et puis, à l'inverse, quand j'examine la nature du temps, quand je m'interroge sur la nature du temps, l'examen effectivement de la notion me montre que le temps n'est rien. Oui. Donc, je suis vraiment, vraiment désemparé. Si le temps, en effet, se comprend à partir de l'expérience du passé, du présent et du futur, son rapport à l'être devient problématique. Le passé. Qu'est-ce que j'entends par le passé? Qu'est-ce qu'on entend par le passé? C'est ce qui n'est plus. Le futur. C'est ce qui n'est pas encore. Et quant au présent, il est radicalement instable, puisqu'on ne peut pas le saisir sans qu'il disparaisse, sans qu'il devienne passé. Je ne peux rien saisir, vous voyez. Donc, le passé et le présent n'existent pas, et le présent, le seul qui existe, il tombe dans le non-être. Et d'ailleurs, s'il ne tombait pas dans le non-être, ce ne serait pas un présent temporel, ce ne serait pas le présent que nous vivons, ce serait l'éternité. Comme dit ici, encore une fois, Augustin, quant au présent, s'il était toujours présent, et qu'en s'écoulant, il ne devint point un temps passé, ce ne serait plus le temps, mais l'éternité. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit, encore une fois, qu'une chose est? On dit qu'elle est, pour autant qu'elle est stable, pour autant qu'elle demeure ce qu'elle est. Or, le temps, tout au contraire, le temps est fait de non-être et d'instabilité. Et même plus encore, on peut dire, parce que je remarque une formule très très remarquable dans le texte, on peut même aller jusqu'à dire que la raison d'être du temps, c'est de ne plus être. Puisque je lis la fin, je lis une formule. C'est la fin d'ailleurs, la dernière ligne. Nous ne pouvons dire avec vérité que le temps soit, sinon parce qu'il tend à n'être plus. Car toute l'essence du temps consiste à attendre à n'être plus. Même hallucinant. Hein. Alors donc, vous voyez, franchement, si je réfléchis à la nature du temps, j'en arrive à la conclusion que bah, ça n'existe pas. C'est du non-être. Mais alors, rien à faire, tout de même. Oui, je dirais... Oui, ça, si on s'en tenait à cette conclusion-là, oui. D'une certaine façon, oui. En tout cas, on ne peut pas en faire un être. Un être, c'est quelque chose qui demeure ce qu'il est. Il y a une stabilité. Là, il n'y a rien. Il n'y a que... Hein, bon. Mais seulement, vous voyez, alors, cette analyse me conduit à cette conclusion. Seulement, j'ai beau arriver à cette conclusion par l'examen, par l'analyse, je persiste toujours à penser que le temps est quelque chose. Je ne peux pas m'empêcher de croire que le temps est quelque chose, ne serait-ce que parce que nous en parlons entre nous. Hein ? Mais aussi, comme va le montrer le chapitre 15 qui vient après, parce que dans les faits, nous ne cessons de mesurer le temps, nous ne cessons de mesurer les durées, de dire que ah ben, tel temps est plus long que tel autre, celui-ci, ce sont deux temps égaux, etc. Vous voyez, dans la pratique, nous ne cessons de mesurer le temps. Si on mesure le temps, ben, c'est qu'il est tout de même quelque chose. Alors, vous voyez, vous êtes ici, écartelé, en quelque sorte, entre deux affirmations contraires. Hein, une qui procède de l'examen et puis l'autre qui procède de la pratique et surtout de la pratique du langage. Alors regardez bien le début du chapitre 15, hein, chapitre 15, début du chapitre 15, c'est donc toujours page 2, le début, hein, nous disons néanmoins, alors néanmoins parce qu'il vient de montrer au chapitre 14 bah, que le temps c'était rien, nous disons néanmoins qu'un temps est long ou qu'il est court, et nous ne le disons que du passé ou de l'avenir. Par exemple, nous disons du temps passé qu'il y a longtemps, lorsqu'il y a plus de 100 ans qu'une chose est passée, et du temps à venir qu'il y a encore longtemps, lorsqu'une chose ne doit arriver que 100 ans après. Bon, je donne des exemples, si vous voulez. Donc, on mesure des durées, c'est un fait. On mesure le temps, c'est un fait. Ça veut bien dire donc tout de même que le temps est quelque chose. On ne mesure pas ce qui n'existe pas. Vous êtes d'accord ? Bon. Donc, comment s'en sortir ? Comment se sortir de cet embarras dans lequel nous sommes plongés ? Et ici, il faut que je fasse, je pense, que je dise quelque chose de la manière dont Augustin, je dirais, avance dans son enquête. On ne peut pas ainsi lire un texte de philosophie sans s'interroger sur la démarche de l'auteur, la manière dont il avance et sa façon de procéder. Alors, vous avez vu que là, vous êtes devant un embarras, hein, une contradiction. Eh bien, ce genre de contradiction, on appelle ça traditionnellement une aporie. Une aporie. Ah, une aporie, si vous voulez, littéralement, c'est une voie sans issue. Une impasse, si vous voulez, dans laquelle l'esprit s'égare. Voilà, vous êtes devant une aporie. Effectivement, puisque vous êtes devant une aporie, parce que vous êtes confronté à deux thèses opposées, hein, comme je l'ai dit, puisque d'un côté, le langage et l'usage nous incitent à penser que le temps est tout de même quelque chose, et puis de l'autre, l'examen nous conduit à conclure le contraire. Vous voyez, c'est ça l'aporie. Alors, on est bloqué. La réflexion se trouve en quelque sorte paralysée, bloquée. Et on se demande si on va pouvoir avancer, si on va pouvoir s'en sortir. Alors, concernant l'examen, vous voyez, parce qu'il va procéder souvent de cette façon-là, Augustin, dans son texte. Concernant l'examen, Augustin utilise volontiers des arguments sceptiques. J'entends par là des arguments qui sont empruntés à cette école de philosophie qui s'appelle le scepticisme, qui est une école en vigueur au 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, et dont un des grands philosophes est Sextus Empiricus. C'est un philosophe très important, dont s'inspirera Montaigne. Montaigne est un sceptique, hein, aussi. On avait eu l'occasion de le voir. Hein. Bon, donc c'est une école très importante, le scepticisme. Et Augustin, effectivement, est marqué par cette école. Et il se sert des arguments sceptiques pour, en quelque sorte, vous voyez, réduire à néant, en quelque sorte, nos certitudes. Alors, pour le scepticisme, l'aporie, c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce qu'elle nous délivre de toute assurance dogmatique. C'est-à-dire qu'au fond, la maladie de l'esprit, pour le sceptique, c'est le dogmatisme. Le dogmatisme de celui qui affirme, qui croit savoir, alors que, au fond, ses affirmations ne reposent sur rien. Et donc, le sceptique s'ingénie à montrer, effectivement, que ses affirmations dogmatiques sont construites sur du sable. C'est ça qu'il fait tout le temps. Et l'aporie, finalement, c'est la conclusion. Et le philosophe sceptique, c'est celui qui suspend son jugement, ce qu'on appelle le doute. Mais le doute sceptique, c'est pas le doute cartésien. C'est pas le doute de celui qui doute pour pouvoir établir une certitude. Non, le doute ici est une conclusion en quelque sorte. Vous voyez ? On peut pas aller plus loin. Alors, d'une certaine manière, Augustin suit les arguments sceptiques, mais il n'en fait pas le même usage. Là où les philosophes sceptiques voient dans l'aporie une sorte de conclusion, ils s'attachent au contraire à installer l'aporie au début et au centre de son enquête pour entreprendre à chaque fois de se frayer un passage. Il essaie à chaque fois de se frayer un passage et de trouver une solution. Et il énonce une aporie. Et puis ensuite, il va essayer de se trouver un passage. Et pour se frayer un passage, il va s'appuyer sur Dieu. Alors, je sais, si je le dis comme ça, vous allez sourire. D'ailleurs, on dirait qu'attends, ah, mais Dieu intervient. Non, c'est pas comme ça qu'il faut l'entendre. Il va lui demander, mais il va falloir comprendre comment Dieu intervient, si vous voulez, de quelle manière il envisage ici, en quelque sorte, la présence divine. Oui ? Voilà, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il va faire. Hein. C'est ce que je vais vous expliquer là maintenant. Donc il prie Dieu de lui accorder la grâce, de l'aider, de lui donner la force en quelque sorte, pour résoudre l'énigme du temps. Et là, je vous invite à regarder un passage qui se trouve chapitre 22. Alors c'est la page 4. Bon, il y en a d'autres, hein, mais celui-là me paraît très clair. Le début. Alors, il s'adresse à Dieu. Mon esprit, hein, c'est chapitre 22, hein, page 4. Mon esprit brûle d'ardeur de comprendre une si grande énigme. Seigneur qui êtes mon Dieu et mon bon Père, Je vous conjure par Jésus-Christ de ne m'en pas refuser l'intelligence. Ne refusez pas à mon extrême désir de pénétrer une question si cachée et si ordinaire tout ensemble. Mais faites que votre miséricorde, comme une lumière favorable, éclaircisse toutes les difficultés qui s'y rencontrent, afin que je les puisse comprendre. Alors, moi, c'est un passage qui me paraît assez significatif. Donc, de quelle manière Dieu est-il présent en l'homme, pour Augustin ? Non pas sur le mode d'une intervention extérieure. Hein ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de miracle, si vous voulez. Hein ? Ce n'est pas de cette façon-là que l'entend ici Augustin. Mais Dieu, il est intérieur. Il est ce qu'il y a de plus intérieur à l'homme. Il est ce qu'il y a de plus intérieur à son âme. C'est en faisant ainsi retour vers son intériorité que l'homme peut trouver justement la lumière divine. Et dans ses premiers livres des confessions, Augustin dit de Dieu qu'il est le maître intérieur. Le maître intérieur, le maître au sens du magistère, hein, celui qui enseigne, celui qui dispense la vérité, celui qui en... Mais de quelle manière il enseigne ? Non pas au sens où il lui donne, comme ça, tout fait, la vérité. Non, il lui donne, en quelque sorte, la lumière et la force pour y travailler lui-même. C'est-à-dire que l'esprit, en quelque sorte, doit effectivement recueillir de Dieu, au fond, la force qui va lui permettre de faire fructifier son intelligence et de parvenir ainsi à comprendre l'énigme à laquelle il fait face. C'est-à-dire que vous voyez ici, oui.
Dieu, il est aussi dans la nature.
Comment ?
Est-ce que Dieu est aussi dans la nature ?
Alors, il est dans la nature, mais il est surtout d'abord pour Augustin, il est d'abord surtout à l'intérieur. Et justement, il va y avoir un changement par rapport aux auteurs précédents, si vous voulez. Donc, il est Dieu, vous voyez, il est intérieur, c'est le maître intérieur. Et alors là, il y a une différence, par exemple, entre Augustin et puis cet autre père de l'Église dont je vous ai parlé en lisant Schopenhauer. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de Tertullien, de ce père de l'Église qui estime, lui, pour sa part, que la foi est totalement inaccessible à la raison. Qu'il y a une opposition radicale entre la foi et la raison. Vous vous souvenez de la formule de Tertullien ? Je crois parce que c'est absurde. C'est-à-dire que la raison est incapable, vous voyez, de comprendre ce qui est de l'ordre de la foi. La foi est absolument. La foi est, je dirais, est inaccessible à la raison. Et ce n'est pas ce que fait Augustin. Et il n'oppose pas la foi et la raison. Alors, il ne va pas dire que la raison est supérieure à la foi. Donc, la foi, il y a d'abord la foi, si vous voulez. Mais la raison permet à la foi de trouver sa propre intelligence. C'est-à-dire que la raison sert à éclairer, en quelque sorte, la foi. Elle est complémentaire en ce sens-là. Et elle va permettre, notamment, de comprendre le sens de la condition temporelle de l'homme. Elle va permettre de comprendre justement l'énigme du temps et aussi du même coup ce qu'il en est de notre condition humaine, notre condition de créature humaine. Ainsi, la prière adressée par Augustin à Dieu consiste à lui demander de lui accorder la grâce et la grâce de l'éclairer afin de surmonter justement les difficultés rencontrées au cours de son enquête pour parvenir à une véritable compréhension. Vous voyez, c'est comme cela qu'il faut comprendre la démarche d'Augustin. C'est-à-dire que vous aurez à la fois, vous voyez, des arguments sceptiques qui sont vraiment, qui fonctionnent un peu comme un acide, hein, qui dissout les certitudes. Et puis de l'autre côté, vous avez l'aide de Dieu, oui, qui vous donne la force de surmonter justement les apories, hein, qui viennent justement de ces arguments sceptiques. Vous voyez, vous avez ça. Hein. Alors, reprenons justement le fil du chapitre 15 et voyons comment les arguments sceptiques incitent à conclure que le temps ne peut pas se mesurer. Donc, dans le chapitre 15, il va montrer que le temps ne peut pas se mesurer. Alors, je résume un peu. D'abord, nous croyons que le temps passé et le temps futur peuvent se mesurer. On commence comme ça, hein. On dit que ça a été une longue période, ou ce sera, il faut attendre longtemps. Enfin, oui. Nous parlons ainsi du temps futur et du temps passé comme des temps qui peuvent se mesurer. Et le présent étant mis de côté, hein. Ça ne concerne que le futur et le passé. Mais ces temps que nous disons longs, hein, nous disons qu'ils sont longs, ils ne sont pas longs puisqu'ils ne sont plus ou qu'ils ne sont pas encore. Au lieu de dire ainsi que ces temps sont longs, comme le dit Augustin, il faudrait dire plutôt, concernant d'abord le temps passé, qu'il a été bien long. Rectification. Hein. Il faut en quelque sorte changer le temps du verbe pour le mettre en, pour mettre le langage en conformité avec l'argument sceptique. Hein. Donc, rectification. Mais cette correction n'est pas satisfaisante pour autant, parce que ce temps passé ne saurait posséder une quelconque longueur, puisqu'il est passé. En tant que temps passé, il n'est plus. Et son non-être interdit toute mesure. Et vous voyez, vous retrouvez l'aporie. Hein ? C'est-à-dire que l'aporie est ici à son comble. Comment mesurer un néant d'être alors même que dans les faits, nous mesurons bel et bien le temps. Vous voyez, l'analyse me montre que c'est un néant d'être, et puis dans la pratique, nous continuons toujours à mesurer du temps, hein, à dire que du temps est long et du temps est court. Alors, une nouvelle correction va s'imposer, et là, je vous invite à lire page 2, toujours paragraphe 15. Paragraphe 15, ligne 23 à 29. Ligne 23 à 29. Vous avez repéré ? Ne disons donc pas. Vous voyez, il ne cesse de rectifier son propos, hein, pour essayer d'être au plus près de la vérité. Ne disons donc pas, le passé a été long, puisque nous ne voyons pas qu'il l'ait pu être. D'autant que dès le moment qu'il a été passé, il n'a plus été. Mais disons, ce temps présent a été long, parce que lorsqu'il était présent, il était long, à cause qu'il n'était pas encore passé au non-être, et qu'ainsi c'était une chose qui pouvait être longue. Alors, vous voyez que par cette rectification, Augustin ramène au premier plan le présent. Il ramène au premier plan le présent, ce temps qui a pourtant été écarté au départ, hein, au début du chapitre, puisqu'au début du chapitre, Augustin remarquait que nous ne disons d'un temps qu'il est long ou qu'il est court que pour un temps passé ou pour un temps futur. Et là, il est en train, vous voyez, par ces rectifications qu'il opère, il est en train de ramener finalement le temps présent, puisque le temps passé a été long seulement quand il était présent. Vous voyez ? Le temps passé a été long quand il était seulement présent. Alors à ce moment-là, le problème, c'est quoi ? Ben, c'est de savoir si on peut mesurer le présent. Est-ce qu'on peut mesurer le présent ? Et alors là, vous allez voir, hein, les arguments sceptiques, ils vont fonctionner. D'abord, pour mesurer le présent, il faudrait d'abord qu'il ait vraiment un être. Hein. Or, vous vous souvenez, le chapitre 14 a montré que le présent, c'est un passage. Hein. Il tend à n'être plus. Bon, ça, c'est la première chose. Et puis aussi, il faudrait aussi que le présent occupe un certain espace de temps, une certaine étendue, qu'il ait une certaine durée, qu'il soit quelque chose d'un peu durable, hein, pour qu'on puisse le mesurer. Il faudrait qu'il ait une petite épaisseur, en quelque sorte. Or, comme va le montrer Augustin, à l'aide justement d'arguments sceptiques, eh bien, le présent ne possède aucune extension. Alors, vous voyez comment il procède. Vous allez voir, on va voir ça rapidement. Ligne 46, ça commence là. Mais vois, mon âme, si cette année que nous disons... Attendez, c'est pas ça. C'est ligne 31. Je me suis trompé. Voyons donc, ô mon âme, si le temps présent peut être long. Voilà. C'est là que débute, en quelque sorte, l'analyse et les arguments sceptiques. Et puis, vous avez la conclusion, page 3. Je vais directement à la conclusion et je vais montrer ensuite comment il y arrive. Alors, page 3, j'ai pas le texte, si, voilà, c'est ça. Regardez, ligne 79. Le présent n'a donc aucune étendue. Vous voyez ? Voilà. Alors, entre deux, toute une argumentation. Je la résume. C'est-à-dire, comment Augustin procède-t-il pour parvenir à sa conclusion ? Eh bien, il prend des unités de temps dans le calendrier. Dans le calendrier, vous avez les siècles, les mois, vous avez les années, les jours, etc. Et ensuite, quand il s'est donné une certaine unité de temps, eh bien, il la divise. Vous allez voir comment. On commence par, le siècle, si vous voulez, ligne 33. 100 ans. Hein, le siècle, c'est 100 ans. Diras-tu, ligne 33, page 2, diras-tu que 100 années présentes sont un long temps ? Oui, là, effectivement, il y a une durée. Hein. Considère auparavant si ces 100 années peuvent être présentes. Car si c'est la première de ces 100 années qui fasse son cours, cette année est bien présente, mais les 99 sont à venir et par conséquent ne sont point encore. Bon, vous voyez comment il procède. Bon, ensuite, il va effectuer le même raisonnement concernant les années. Résume, considérons une année en tant que telle. Ce qui cette fois est présent dans une année, c'est un mois, c'est pas l'année entière. Vous êtes d'accord ? Et puis ensuite, si on considère un mois seulement, eh bien seul est présent un jour de ce mois. Et puis si on considère seulement un jour de ce mois, eh bien seul est présente une heure de ce jour, et ainsi de suite. Vous voyez comment il procède, c'est-à-dire qu'il arrive à cette remarque qui se trouve, page 3, ligne 69-71, page 3, ligne 69-71, regardez ce qu'il dit sur l'heure. Mais cette même heure n'étant composée que de moments fugitifs, tout ce qui s'est déjà écoulé, tout ce qui s'est déjà écoulé d'elle est passé, et ce qui en reste est à venir. Donc en fait, au terme de cette réduction de l'étendue, c'est commencé par un siècle, ensuite une année, ensuite un mois, ensuite un jour, etc. Au terme de cette réduction de l'étendue présumée du présent, eh bien, il n'y a plus qu'un présent ponctuel et fugitif, sans la moindre étendue. C'est-à-dire que le présent s'avère ainsi insaisissable et non mesurable. Et on voit ici toute la différence entre la continuité spatiale et puis la continuité temporelle. Autant la continuité spatiale permet de faire exister simultanément ces parties, vous voyez, on peut découper, mais elles sont présentes. Hein, autant la continuité temporelle, elle ne peut pas faire exister simultanément ces parties. Donc la continuité temporelle, c'est la succession des parties qui disparaissent aussitôt qu'apparues. Et voilà pourquoi la mesure du temps est inconcevable. Et pourtant, nous mesurons le temps. Et pourtant, dans les faits, c'est un fait, nous comparons des durées, et nous sommes en rapport avec le passé et le futur. Sinon, si nous n'étions pas en rapport, si nous n'étions que dans un présent insaisissable, si nous n'avions pas de rapport avec le passé et le futur, nous ne pourrions pas raconter l'histoire de notre enfance, notre vie, nous ne pourrions pas non plus anticiper nos actions. Donc, vous voyez, ça résiste tout de même à cette conclusion qui consiste à dire le temps n'existe pas ou le présent n'est qu'un présent ponctuel et insaisissable. Ça résiste. Alors, comment sortir de cette aporie qui, d'un côté, nous conduit à penser que le temps n'est pas mesurable et puis qui, de l'autre, au contraire, doit bien admettre qu'il y a un fait de la mesure. Alors, à partir du chapitre 16, Augustin, vous allez voir, et c'est ça qui est très intéressant maintenant, là on entre vraiment dans les choses intéressantes, il va, parce que pour l'instant c'était du négatif tout de même, hein. Maintenant il va tirer les conséquences de l'analyse du temps qu'il a faite au chapitre 14. Et vous allez voir comment c'est important. Si le passé, rappelez-vous, si le passé n'existe pas, il n'est plus. Si le futur n'existe pas, il n'est pas encore. Et si seul le présent existe, même si le temps au non-être, même s'il n'est que passager, eh bien, il faut alors cesser de parler de trois temps, comme on nous a appris à le faire depuis notre enfance. Ah, il dit, Augustin, on nous a appris enfant qu'il y avait trois temps, le passé, le présent, le futur. Ben non, il n'y en a pas trois. Il n'y a pas trois temps, non. Non, le temps n'est pas constitué de trois dimensions, dont l'une d'elles serait le présent. Le temps n'est pas constitué de trois temps, le passé, le présent et le futur. Il est constitué de trois présents. Il est constitué de trois présents, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule dimension du temps, c'est le présent. Et je vous invite à lire ici le chapitre 20. Chapitre 20, qui se trouve donc page 4. Vous allez voir ce passage. Chapitre 20, depuis le début, page 4. Ce qui me paraît maintenant avec certitude, et que je connais très clairement, c'est que les choses futures et les passées ne sont point, et qu'à proprement parler, on ne saurait dire qu'il y a trois temps, qu'il y ait trois temps, le passé, le présent et le futur. Mais peut-être on pourrait dire avec vérité qu'il y a trois temps, le présent des choses passées, le présent des choses présentes, et le présent des choses futures. C'est-à-dire que, c'est tout bête, mais il faut mesurer ce que ça signifie. Le passé en soi n'existe pas. Il n'existe que sur le mode du présent du passé. Il n'existe que sur le mode du souvenir. Vous voyez ce que ça veut dire, hein ? Le passé en soi n'existe pas, il n'est plus. Le passé n'existe que sur le mode du présent du passé, c'est-à-dire sur le mode de la mémoire, du souvenir. Ce souvenir, c'est en quelque sorte avoir en soi une trace du passé, et se représenter le passé par une trace, par un vestige. Le futur n'existe pas non plus en soi. Il n'existe que sur le mode du présent du futur. Ce que Augustin appelle l'attente. C'est ça le futur, c'est l'attente. C'est pas une chose, pas quelque chose, puisqu'il ne sait rien. Mais c'est l'attente que j'en ai. Vous voyez ? Et quant au présent du présent, bah c'est l'attention. Mais Augustin est plus précis, parce que là, ce que je vous dis est inexact. Augustin ne parle pas du présent du passé en général, il ne parle pas du présent du futur en général, il ne parle pas du présent en général, il parle du présent des choses passées, des choses présentes, des choses futures. Attention, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que si je reprends le souvenir, c'est le présent non pas du passé en général, mais c'est le souvenir de ce qui, du passé, reste en mémoire. De ce que j'ai retenu. Et je n'ai pas tout retenu. Donc, le présent des choses passées, c'est ce qui demeure présent de ce qui n'est plus. Oui, choses passées, oui.
C'est-à-dire que le présent est partout.
Le présent est partout. Le temps, c'est le présent. Le temps, c'est du présent. Mais c'est du présent articulé. Vous allez voir, il faut expliquer. Hein. Les questions, elles vont venir.
C'est-à-dire qu'il réincarne un peu, là. Parce que, en fait, ce qu'il a, c'est qu'il n'incarne pas les choses. Je veux dire, c'est complètement enfin, cérébral.
Non,
le temps, pas cérébral. Ça s'incarne dans la matière.
Alors, je vous propose de faire votre objection après, parce que d'accord. J'ai peut-être pas tout expliqué non plus. Hein. Bon, alors donc non, c'est pas cérébral, c'est que le temps, c'est le vécu du temps, c'est ça, c'est du présent. C'est du présent qui se rapporte au passé, c'est du présent qui se rapporte au futur, ou c'est du présent face au présent. Mais étant entendu que le passé n'existe pas, il n'est plus. Le passé n'existe pas. Il n'existe que sur le mode de la présence d'une absence, c'est le souvenir. Bon, alors, évidemment, un philosophe comme Bergson discutera cette idée-là, mais bon, on n'en est pas là. Et donc les parties, alors ce qui est assez récent, c'est que les parties du temps ne se distinguent en vérité que dans et par une commune présence. Les parties du temps, le présent, le futur et le passé, ce sont trois modes du présent. Et cette commune présence suppose une instance à laquelle ces parties puissent être présentes, une instance qui se représente ces parties. Et quelle est cette instance? C'est l'âme. Ce que Augustin appelle l'âme, ce que nous nous appellerions la conscience. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ici, c'est là la révolution d'Augustin. Hein, c'est ne pas chercher le temps à l'extérieur des choses, à l'extérieur de nous. Le temps, c'est ce qui, justement, est en nous. Ce qui n'existe que par des opérations de l'âme. Et c'est ainsi, donc, par l'âme que le temps existe. Donc le temps ne peut, je répète, acquérir une quelconque consistance que dans la mesure où il est pensé, où il est considéré en nous du point de vue de notre âme. Donc ce qui seul confère de l'être au temps, ce qui seul confère une durée au présent, une certaine extension, c'est l'âme. C'est l'âme. C'est elle, c'est en elle, si vous voulez, que le présent acquiert une épaisseur, une stabilité minimale. C'est en elle que le passé et le futur trouvent leur lieu. Parce que, à un moment donné, Augustin pose la question, mais où sont le passé et le présent? Où sont le futur et le passé? Leur site, leur lieu, c'est l'âme. Et il n'existe qu'en l'âme. Vous voyez? Par le souvenir ou par l'attente. Ce qui n'est plus, ce qui n'est pas encore, tout cela ne peut exister que par la présence de signes dans l'esprit. Alors, que ce soit, et là on va expliquer, que ce soit des vestiges ou des traces concernant les choses passées, ou que ce soit des causes ou des présages concernant justement les choses à venir, les choses futures. Regardez chapitre 18, c'est la page 3, je pense. Page 3, ligne 11. Ainsi, lorsqu'on nous raconte des choses passées, si on les rapporte selon la vérité, si on les tire de la mémoire, non pas les choses mêmes qui sont passées, mais les paroles qu'on a conçues des images de ces mêmes choses, qui en passant par nos sens, ont imprimé dans notre esprit comme leurs traces et leurs vestiges. Car mon enfance, laquelle n'est plus, mon enfance n'existe plus, elle n'est plus. Car mon enfance, laquelle n'est plus, est dans le temps passé, qui n'est plus aussi. Mais lorsque je m'en souviens et que j'en raconte quelque chose, c'est sans doute dans le temps présent que je considère son image, parce qu'elle est encore dans ma mémoire. Vous voyez? Donc, où est le passé? Où est le passé? Eh bien, il est nulle part, sauf en moi, sauf en mon esprit, sauf en notre esprit. Par des images, alors comment? Par la mémoire, par des images, par des vestiges, par des traces. Donc, oui, et évidemment, c'est l'âme, c'est l'esprit qui fait le lien entre cette trace qui est présente en moi et puis le passé qui a existé. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ici, alors évidemment, ça, Augustin n'explique pas. Ça reste tout de même assez énigmatique qu'une trace présente en moi puisse signifier un passé qui a disparu. Hein? Bon, mais il décrit seulement. On avait réfléchi là-dessus en réfléchissant, en abordant la question de la mémoire. Eh bien, effectivement, c'est l'âme qui établit un lien entre la trace, donc qui est présente en elle, et puis ce passé qui n'est plus, et dont cette trace est l'image. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un lien de ressemblance, en quelque sorte, entre la trace, entre le vestige, et puis ce qui a été. S'il n'y avait pas ce lien de ressemblance, il n'y aurait pas de souvenir. Vous voyez ? Donc c'est par ses propres opérations que l'âme confère au passé un mode d'existence. Si l'âme n'était pas capable effectivement de se représenter par un souvenir, par une image, Ce passé qui a été, bah, le passé, alors là, franchement, pour le coup, n'existerait pas, il serait totalement anéanti. Ce serait l'amnésie. Totale, la perte totale. Quant aux choses futures, bah, elles existent aussi au présent par des signes qui les annoncent. Et là, Augustin vous en donne un exemple. Page 4, ligne 46 à 49. Page 4, ligne 46 à 49. Alors, c'est assez simple, hein, c'est clair. En haut, hein. Entre un si grand nombre de choses qui m'en peuvent fournir des exemples, je veux ici en rapporter un. Lorsque j'aperçois l'aurore, je prévois aussitôt que le soleil va se lever. Ce que j'aperçois est présent, et ce que je prédis est à venir. Non pas le soleil qui est déjà, mais son lever qui n'est pas encore. Et je ne pourrais le prédire si je ne l'imaginais dans mon esprit, ainsi que je fais maintenant lorsque j'en parle. Vous voyez bien ? Donc ici, qu'est-ce qui se passe ? Ben, un événement physique présent. Ben, l'aurore, c'est un événement physique présent. Eh bien, cet événement, je le vois. Hein, je le vois. Eh bien, je l'interprète. Vous voyez, mon esprit l'interprète comme l'annonce d'un autre événement, d'un événement à venir. En l'occurrence, ici, le lever du soleil. Alors que cet événement à venir, je ne le vois pas. Je ne vois que l'aurore. Vous voyez ? Ah, c'est facile à comprendre. Donc, c'est une opération de l'esprit qui fait exister le temps. Le temps n'existe que par les opérations de l'esprit. Voilà ce que montre ici Augustin. Alors, vous voyez, on vient de faire un pas important. On vient de faire un pas important. Vous venez de faire un pas très important dans la découverte du temps. Donc, si j'ai bien compris, alors qu'on croyait désespéré de résoudre l'énigme du temps, les chapitres 17 à 20, donc on accomplit donc ce pas très important en découvrant que le temps n'acquiert une réalité que dans l'âme, dans l'intériorité de la conscience, sous la forme d'un triple présent. Hein, le temps n'existe que comme un triple présent. Mais ce qui n'est pas résolu encore, c'est la question de la mesure du temps. Elle n'a pas encore été résolue, cette énigme. Hein, on n'a pas encore compris comment, de quelle manière on arrivait à mesurer le temps. Ça, on ne l'a pas encore vu. Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. C'est un fait. Hein, nous mesurons le temps. Hein, nous mesurons des durées. Mais comment nous y prenons-nous ? C'est ça la question. Et cela demeure encore énigmatique, comme le remarque lui-même Augustin au début du chapitre 21. Lisez avec moi le chapitre 21. C'est page 4. Vous voyez ? Alors, on est un peu partout là. Page 4, où est-ce que j'ai la page 4 ? Voilà, que je cherche ma page 4. Excusez-moi. Bon, oui, deux secondes, parce que sinon je vais chercher tes sœurs. Alors, page 4, c'est ligne 6-13. C'est donc toujours le chapitre 21. Ligne 6-13, donc c'est voilà. Alors non, on va dire depuis le début, on va mettre... J'ai déjà dit, bon, on va dire depuis le début, hein. J'ai déjà dit que nous mesurons le temps, que nous mesurons les temps qui se passent, afin de pouvoir dire « ce temps-ci est le double de l'autre » ou bien « ce temps-ci est égal à l'autre » et ainsi de toutes les autres parties du temps dont nous pouvons parler en les mesurant. Ce qui fait voir que nous mesurons les temps lorsqu'ils se passent. Alors, vous voyez bien, c'est un fait, hein, on mesure. Hein. Bon, et bon. Alors, que si quelqu'un me demande comment je le sais ? Alors là, je réponds que je le sais. Je réponds que je le sais, c'est tout. Parce que nous les mesurons. Et que nous ne saurions mesurer les choses qui ne sont point. Ainsi que les passés et les futurs ne sont point. Mais, oh, il est coriace hein, avec sa question. Mais comment pouvons-nous mesurer le temps présent puisqu'il n'a point d'étendue ? Ben, nous le mesurons lorsqu'il passe. Et nous ne le mesurons point lorsqu'il s'est passé, lorsqu'il est passé. Puisqu'il n'est plus puisqu'il n'est plus pour pouvoir être mesuré. Vous voyez, regardez la façon dont ici procède à nouveau Augustin. Il reprend à peu près le même type de discours qu'il y avait dans le chapitre 14. Si quelqu'un me demande, c'est exactement la même façon de procéder. Et donc, on retrouve ici à nouveau des arguments sceptiques. C'est-à-dire que pour mesurer le temps, il faut disposer d'espace de temps, une certaine étendue de temps, mais de tels espaces ne sauraient exister si on refuse, de considérer que le passé et le futur existent, et si on considère que le présent n'est qu'un présent ponctuel. Bon. Alors, avant de montrer comment, à l'intérieur de l'âme humaine, va se résoudre le problème de la mesure du temps, et je vais terminer là-dessus, Augustin va écarter la solution traditionnelle qui a été donnée jusqu'ici par les philosophes avant lui, les stoïciens, Aristote, etc. C'est la solution cosmologique. D'ailleurs, c'est vraiment très simple. Solution cosmologique qui consiste à mesurer le temps par le mouvement régulier des astres. Et c'est comme ça qu'on considérait la mesure du temps, jusqu'à lui, jusqu'à Augustin. Et ici, il faut lire le chapitre 23, où Augustin donc réfute l'approche cosmologique traditionnelle du temps. Alors, premier argument, je résume, pourquoi, c'est ici un argument d'Augustin, hein, pourquoi accorder au mouvement des astres un tel privilège ? Hein ? Parce que c'est le privilège que lui accordent les philosophes comme Aristote, par exemple. Pourquoi dire que le temps... Pourquoi dire que le temps n'est pas autre chose que le mouvement régulier des astres ? Alors, vous voyez, il a l'air de rien avec cette petite question-là, Augustin. La question a l'air anodine, comme ça. Mais en fait, par cette petite question anodine, il attaque la théologie astrale, qui était, au fond, la théologie en vigueur chez les anciens. Les anciens considéraient que les astres sont des êtres divins, des êtres parfaits, des êtres incorruptibles, radicalement distincts de ces êtres corruptibles que sont les êtres naturels qui vivent à la surface de la Terre. Par exemple, Aristote, par exemple, distingue le monde en deux. Hein, il y a le monde supralunaire, hein, le monde des astres, hein, où règne la perfection, et puis il y a ce qui est au-dessous de la Lune, où règne effectivement tout ce qui est corruptibilité, hein, tout ce qui est naturel et corruptible et soumis au devenir, et nous sommes, faisons partie de ce monde-là, faisons partie de la nature. Eh bien, effectivement, pour les anciens, c'était une conviction, hein, qu'il y a un seul monde. Les dieux, d'ailleurs, habitent là-haut, hein. Ils habitent le monde, hein. ils ne sont pas en dehors, hein. Il n'y a pas de création. Et, nous sommes en bas. Hein. Il y a une supériorité du céleste, évidemment. Eh bien, regardez ce que fait Augustin avec cette petite question-là, qui a l'air de rien, où il se fiche du monde. Hein. Un peu provocatrice, sa question. Eh bien, il vous dit que, finalement, les astres n'ont rien de sacré. Il désacralise le cosmos. Le cosmos n'est plus du tout pour lui le lieu de la perfection ultime. Il ne se distingue pas radicalement des choses terrestres. Tout ce qui existe, que ce soit dans les cieux ou sur la terre, tout ce qui existe est créature. Et toutes les créatures dépendent de Dieu, de sa volonté. Et il n'y a pas de supériorité du céleste sur le terrestre. Ainsi, les astres sont ramenés par Augustin au rang des autres mobiles. Et il prend l'exemple assez provocateur, vous direz, de la roue d'un potier, en suggérant qu'on pourrait tout aussi bien se rapporter au mouvement régulier de sa roue pour mesurer le temps, après tout, pourquoi pas, hein ? Donc, nous, on ne se rend pas compte, mais c'est très provocateur de dire des choses comme ça. Hein ? En outre, si le mouvement des astres s'arrêtait, s'il se mettait à varier, à s'accélérer, à ralentir, le temps ne s'arrêterait pas pour autant. Vous voyez ? Il faudrait mesurer simplement le temps par le mouvement régulier d'un automobile, la roue justement de notre potier par exemple. Pour un philosophe comme Aristote, qui est quand même la grande référence hein, pendant des siècles, l'hypothèse d'un arrêt éventuel du cours des astres est complètement loufoque, complètement inconcevable. C'est une idée, d'ailleurs, il faut bien reconnaître, c'est une idée assez difficile à accepter, mais c'est une idée plus facile à accepter si l'on considère que toutes les créatures dépendent évidemment de la volonté divine. Et ici, vous avez dans le texte une allusion d'Augustin à un célèbre épisode de la Bible. Il se réfère à la Bible. Alors, est-ce qu'il le prend vraiment très au sérieux ? Non, mais c'est un peu pour mettre en difficulté la thèse des anciens. Dans la Bible, il est raconté que le soleil s'était arrêté après la prière de Josué. Josué avait prié Dieu pour qu'il lui donne la possibilité de remporter la victoire contre son ennemi avant la tombée de la nuit. C'est-à-dire, il risquait de perdre s'il n'avait pas la victoire avant. Alors, Dieu accéda à sa prière et il fit de ce jour le jour le plus long en arrêtant la course du soleil. Et le jour le plus long, c'est le jour où Josué a emporté la victoire contre ses ennemis parce que cette fois-là, la nuit était tombée plus tard. Hein. Ouais, bon. Et puis, il n'y avait pas d'infrarouge hein, à l'époque pour faire la guerre. Donc, quoi qu'il en soit, vous voyez, le temps n'est pas le mouvement extérieur des corps, étant donné que la vitesse de leur mouvement peut varier sans que la mesure du temps en soit affectée. Hein. Alors, donc, c'est comme va le montrer, parce que je ne vais pas aller plus loin, il faudra montrer ça la prochaine fois, c'est dans l'âme, comme va le montrer le chapitre 27, c'est dans l'intériorité de l'âme qu'il faut chercher comment s'effectue la mesure du temps. Et j'énoncerai seulement la solution, si vous voulez, elle se trouve, mais il faudra l'expliquer, au chapitre 27, qui se trouve page 7 de votre vos textes, la page 7, ligne 77, 82. Hein, vous allez voir, c'est là que se trouve la réponse. Mais évidemment, encore une fois, c'est une réponse qu'il faudra expliquer. Ainsi, c'est dans toi, mon âme, que je mesure les temps. Ne m'importune point en demandant de quelle sorte cela se fait et ne t'embarrasse point toi-même par mille diverses imaginations. C'est toi, dis-je, que je mesure, c'est en toi, dis-je, que je mesure l'impression que les choses qui passent font dans toi et qui y demeurent après qu'elles sont passées. Donc, vous voyez, c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on va voir ici que c'est à la mémoire qu'on doit la possibilité de mesurer le temps à l'intérieur de l'âme. Comment ? Je vous l'expliquerai la prochaine fois. Donc la prochaine fois, nous continuerons cette lecture, nous l'achèverons, et j'en profiterai pour un petit peu parler de la cité de Dieu, parce qu'il y a une réflexion très intéressante à mener sur le temps et son rapport à l'histoire. Enfin bon, il y a des tas de choses à dire là-dessus. Bon, et bon, voilà, j'arrête là. Alors là, vos questions, allez-y. Alors, attendez.
Non, oui. Quand je me disais que je vais fatiguer. Donc voilà. Je me suis appuyé sur la notion de temporalité.
Oui.
J'ai été regarder dans le dictionnaire.
Oui.
La saisie, c'est le caractère de ce qui existe dans le temps,
oui.
Ou, mais moi je dirais et, qui a une durée limitée. Je dis la matière est périssable. Tout est pris dans la temporalité qui lui est propre. Le temps humain dans une situation d'isolement total, dans un coma profond, il est rythmé par les battements de son cœur, sa respiration, le rythme de ses viscères ou de ses cellules. En dehors de lui, se rythment les jours, les nuits, les saisons, les planètes, etc. Comment parler du temps en dehors de ces faits? Vous dites, vous mourrez, le temps continue. Non, je meurs, le temps n'existe plus. J'ai fait mon temps.
Oui, alors.
Voilà.
Non, mais quelle est votre question ?
Eh bien, ma question, c'est là, comment on peut échapper à cette dimension-là ?
Ouais.
Ce qu'il appelle l'âme, par ouais. exemple, Augustin, c'est dans le corps aussi qu'on voit le temps.
Ah,
c'est notre temporalité à
non, mais attendez, j'ai pas dit le contraire. J'ai dit que nous, si nous n'avions pas les opérations de l'âme, nous ne pourrions pas conférer de l'épaisseur au temps. À la limite, le temps, il y aurait du temps peut-être, mais nous ne nous en apercevrions pas, si vous voulez. Voilà. C'est ça, c'est-à-dire que c'est, la conscience du temps est déterminante. Je ne vais pas dire que l'homme est une pure âme désincarnée, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que l'âme, ce qu'on appelle la conscience, c'est... ce qui nous permet d'avoir une expérience vécue du temps, qui est pour Augustin fondamentale. Alors reste le problème que là, je ne suis pas en mesure de traiter comme ça tout de suite. Est-ce qu'il y a du temps indépendamment de l'âme ? Est-ce que alors Augustin ne dit pas que le temps se réduit à l'âme. Il ne dit pas ça, mais il dit que nous n'avons de notion du temps que parce que y a l'âme, parce que effectivement il y a la conscience. Alors peut-être une question.
En parlant du temps, est-ce qu'on peut, on est capable d'expliquer pourquoi est-ce que les aiguilles d'une montre, par exemple,
pourquoi
se déplacent ?
Pourquoi les aiguilles d'une montre se déplacent ? Ah, on avait abordé cette question la dernière fois. C'est vrai que on mesure les effets du temps, ça c'est vrai, mais par quelle force ? Énigmatique, le temps fait-il changer les choses ? Là, effectivement, je crois qu'on bute. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que le temps est-ce qui fait avancer constamment les choses, qu'est-ce qui fait que le temps fait croître les plantes, qu'est-ce qui fait que le temps vous fait grandir, qu'est-ce qui fait que le temps vous fait mourir.
C'est le temps qui fait changer les choses.
Oui, c'est le temps qui fait changer les choses, bien sûr.
Mais,
non, mais on est d'accord. Mais on est d'accord. Mais ce qui reste énigmatique et ce qu'on ne parvient pas à expliquer, c'est comment expliquer ce moteur, comment rendre compte, effectivement, de son action constante. Hein, voilà, ça, par contre, là, alors c'est une question, là, effectivement, à laquelle je ne saurais répondre. Et je ne crois pas qu'on puisse vraiment pleinement y répondre. On mesure, on parle beaucoup du temps. On a, en fait, la question de l'essence du temps, de la nature du temps, de ce qu'il est profondément, question que les physiciens n'abordent pas, d'une certaine manière, même s'ils mesurent, mais...
Les mystères de la vie, on tombe toujours
là-dessus
à la fin.
Ah non, c'est pas les mystères de la vie non plus. Hein, c'est pas. Non. Non, c'est pas non plus ça. C'est pas. Non, il y a des choses qui s'expliquent. Mais attends, il y a une question.
Ah oui. Augustin, comment il arrive à expliquer l'effet du temps sur des choses qui n'ont pas d'âme ?
Comment il arrive à
sur les choses qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas une âme.
Ah oui, oui. Est-ce que les autres êtres ont la notion du temps ?
Voilà, parce qu'à un moment donné, dans le chapitre 18,
ouais.
Il disait que grâce à son âme, justement, il
ouais.
peut pas prédire. Enfin, c'est grâce, en fait, qu'il a une âme qu'il arrive à avoir le temps.
Oui.
Grâce à la prédiction.
Alors, je vais essayer de vous répondre dans la mesure de mes limites et des limites de ma lecture. Parce que, avec Augustin, parce que sinon... Ben, je dirais que les autres êtres qui n'ont pas d'âme, bon, qui n'auraient pas d'âme en tout cas, ne peuvent pas avoir la notion du temps.
Non. Mais par contre, on sait bien que...
Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas soumis au temps.
Oui, mais on sait bien que par exemple, un lapin, il va courir dès qu'il va entendre un chasseur. Et donc, il a prédit.
Alors, il y a une relative, oui. Alors, c'est clair. Mais il peut y avoir de la conscience.
Ouais.
Il peut y avoir de la conscience chez les animaux, ce n'est pas exclu.
Alors, justement, pour ça.
Et la phénoménologie, mouvement contemporain,
ouais.
Ne réserve pas la conscience exclusivement à l'être humain.
Là, la question, c'était par rapport à Augustin, par contre.
À Augustin, oui. Alors, Augustin, effectivement, n'aborde pas cette question. Mais ce qui est sûr, c'est que il veut, lui, montrer, sa démarche, elle est spirituelle, hein. Mais même si sa démarche est spirituelle, quelqu'un qui n'est pas croyant peut être tout à fait interpellé, intéressé par sa démarche, hein. C'est ça que je veux montrer. C'est-à-dire que ce serait, mais c'est vrai que sa quête, elle est spirituelle. C'est le salut de l'âme. C'est bon. Et c'est ce qu'il faudra que je montre après, un peu plus. Il faudra que je montre comment se raccorde cette description de l'expérience humaine du temps avec justement ses préoccupations religieuses. Hein, ça pourra le montrer tout de même. Mais pour Augustin, effectivement, il ne se pose pas la question des autres êtres. Hein. Il voit le temps, il sait que nous n'avons de notion du temps que parce que nous faisons sa découverte dans l'intériorité de notre conscience. C'est tout. C'est assez descriptif, en un sens, ce qu'il fait. Il décrit. Hein. Il décrit. Alors, s'il s'avère qu'il y ait d'autres êtres qui aient une conscience, bon, là, oui, mais là, on dépasse Saint-Augustin. Hein. Oui, pourquoi pas. Hein. D'ailleurs, il faut bien admettre que la notion de temps, elle ne se constitue pas dès le départ chez un être humain. Elle n'est pas déjà présente. Hein ? Immédiatement. Vas-y, oui.
La notion de temps, elle a évolué au fil des siècles. La question du temps a évolué au fil des siècles dans les sciences. Avec Newton, c'était...
Oui.
Oui,
alors, la différence, là, si vous voulez, entre l'approche d'Augustin et l'approche des physiciens, c'est que pour les physiciens, Newton, Einstein et d'autres, même s'ils ont des divergences, la question du temps est une question objective. Ils rapportent le temps à la question de la nature, de la cosmologie. Voilà. C'est-à-dire, ils ne ramènent pas la question du temps à la conscience. Là, c'est une approche différente, vous voyez. C'est une approche différente. Alors, et d'ailleurs, Augustin est peut-être, c'est vraiment son originalité, c'est le premier à aborder la question sous cet angle-là. Hein ? C'est-à-dire, voilà, ça c'est tout à fait quelque chose. Mais évidemment, s'il s'interroge sur le temps, c'est par rapport à la question d'éternité aussi. Hein ? Mais oui, alors ça c'est vrai que la physique, elle, n'aborde pas du tout la question du temps sous l'angle de la conscience, hein, c'est clair. Vous avez là une divergence, hein, radicale. Vous avez deux approches totalement différentes. L'autre grand penseur du temps dans l'Antiquité, c'est Aristote, qui lui a une conception cosmologique du temps. Alors, pas aussi grossière qu'on peut avoir l'impression, en lisant Augustin, on peut avoir l'impression qu'un philosophe comme Aristote... à une approche un peu grossière du temps cosmologique. C'est pas aussi simpliste. Mais c'est la grande référence la grande référence philosophique concernant le temps, c'est Aristote. Mais sa conception est objective, c'est-à-dire où l'âme ne fait que refléter le mouvement de la nature, en quelque sorte. Elle ne constitue pas le temps. Elle n'en est jamais que d'une certaine façon la caisse de résonance. Enfin, si je peux me permettre de parler de cette façon-là. Vous voyez, c'est... Tandis que chez Augustin, c'est l'âme, c'est l'esprit lui-même qui constitue le temps. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et bon, alors, il y aura après toute une tradition philosophique qui suivra Augustin. Bon, je parlais des phénoménologues, le grand philosophe contemporain qui réfléchit sur le temps, c'est Husserl. Il est beaucoup moins connu que les autres, mais c'est quand même le plus important. Et oui, bah lui, effectivement, il va dans ce sens. Mais là, on n'est pas du tout on n'est pas du tout sur la même voie que les physiciens. Ouais. Oui.
Mais sans événement, il me semble qu'on ne peut pas parler de temps. Donc, ce dont il parle, ce temps, c'est vrai ce qu'on disait tout à l'heure, il a quelque chose de très abstrait. Pour qu'on appréhende la notion de temps, il faut qu'il y ait un événement, donc une durée. Il me semble qu'il a tendance à confondre quelquefois temps et durée.
Ah non, non, non. Non. Alors, d'une part, il n'est pas sûr que le temps, enfin, vous voulez dire qu'il y a du temps, on a la notion de temps parce qu'il y a changement. Parce qu'on fait l'expérience d'un changement, d'un événement. C'est ce que vous dites. Mais il peut très bien y avoir du temps quand il y a un repos.
Je ne sais pas. De la même façon que pour qu'il y ait de l'espace, il faut qu'il y ait de la matière, c'est-à-dire qu'un espace absolument qui serait un théâtre vide, sans aucune matière, c'est une vue de l'esprit.
Oui, non, mais enfin, bon, en tout cas, ce qui est certain, non, je ne suis pas d'accord avec votre critique qui consiste à dire que c'est purement abstrait. C'est tout de même, justement, une analyse qui est assez fidèle à l'expérience qui est au plus proche, qui est au plus près, de l'expérience vécue que nous avons de la conscience du temps, qui essaie de décrire de façon rigoureuse. C'est pour ça que les philosophes contemporains admirent Saint-Augustin. Il essaie de décrire au plus près, finalement, cette expérience telle qu'elle se constitue dans la conscience.
Mais ça n'est pas tout à fait compatible avec ce que dit Bergson, par exemple.
Eh bien, Bergson sera dans cette lignée, avec...
Pas tout à fait,
mais d'une certaine façon, et c'est en réfléchissant sur l'expérience de la conscience que nous avons du temps qui va effectivement élaborer sa philosophie générale sur le temps. Et il montrera même que, au fond, le temps objectif, on peut l'envisager sur le modèle même du temps vécu. Enfin, on reviendra à Bergson. Non, je crois que là, je ne suis pas trop d'accord pour dire que c'est abstrait, parce que c'est vraiment une expérience décrite. Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres philosophes dans l'histoire, à Platon, qui parlaient de l'immortalité de l'âme ?
Oh, bah oui, alors là, bah, Aristote, c'est un vieux problème. là, c'est un... Oui, il y en a vraiment beaucoup. Hein. L'intérêt, par contre, de la philosophie contemporaine, c'est qu'elle réfléchit au temps sans... se référer à une quelconque position métaphysique, c'est-à-dire en évitant de se poser la question de l'immortalité de l'âme, ce genre de questionnement, on le met à l'écart dans la philosophie contemporaine, vous voyez, quand on aborde la question du temps. Alors, c'est abstrait. Ça vous a paru très difficile ? Moi, je trouve que... Je vais vous dire. Je trouve qu'on apprécie... Enfin, pour bien apprécier un philosophe, il faut vraiment le lire patiemment. Parce que sinon, si vous faites des résumés qui paraissent arbitraires, vous n'arrivez pas à comprendre. À la limite, c'est très simple ce qu'il dit, si on fait attention. Ah, il faut faire attention. Par contre, ça exige une certaine attention. Il faut bien reconnaître. Oui ?
Ça exige un effort.
Ça exige un effort, c'est sûr. Ben, il faut suivre le cheminement. Hein. Petite question ? Oui ? Disons qu'on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que, en fait, la physique moderne, effectivement, bien sûr qu'elle permet d'éclairer le temps, elle permet de montrer que le temps est relatif, qu'il n'y a pas de simultanéité absolue, que c'est relatif, effectivement, à la position, au référentiel, à la position de l'observateur, etc. Bon, tout ça, effectivement, on peut l'expliquer, mais elle ne se prononce pas sur l'expérience intime vécue que nous en avons par la conscience. Ça, c'est pas son problème.
Je ne sais pas si le temps en fait partie, mais j'ai entendu dire, par exemple, l'observation de l'observateur change le réel.
Ah oui,
dans ce sens-là,
Disons qu'avec la relativité restreinte, ce que j'en comprends, c'est que je dirais que le temps est relatif à la position d'observateur. Donc.
C'est variable avec la vitesse. Avec l'espace aussi.
Oui, bien sûr. Mais alors évidemment, il faudrait reprendre ça. On en a un peu parlé. Non, mais en même temps, bon, ceci étant dit, si vous êtes dans le même. Si vous avez deux individus qui sont situés dans le même, dans la même configuration, les choses ne vont pas varier entre eux. Hein, ils auront la même expérience, si vous voulez, quasiment. Et ça change quand on a affaire à un tout autre référentiel. Mais bon, ça, c'est l'histoire des deux jumeaux, vous savez, qui s'en vont, le paradoxe de Langevin. Oui ? Non. Non, mais pas pour des raisons, parce qu'ils sont butés, parce qu'ils veulent pas se voir, mais parce que leurs problèmes ne sont pas les mêmes. Leurs questionnements ne sont pas les mêmes. Bon, la religion, c'est pas une science. Hein, c'est autre chose. C'est autre chose. Et, comment dire... non, par contre, oui, les philosophes peuvent effectivement être en contact avec les sciences. Oui, ça oui. Ben, ça a toujours été le cas. J'avais dit la dernière fois que la question, alors ça vous a étonné, ça a étonné un certain nombre d'entre vous, quand je disais que le temps, c'était la grande question philosophique. Ça a été la grande question philosophique, et les choses ont changé au XVIIe siècle avec Newton, avec la naissance de la physique. Mais jusqu'alors, c'était les philosophes qui parlaient du cosmos, qui parlaient du temps objectif, qui parlaient de... Bon, et il y avait ces deux dimensions, le temps objectif et le temps subjectif. Bon, et la révolution scientifique du XVIIe siècle, donc la naissance de la physique, fait que de plus en plus, c'est le physicien qui va investir finalement ce champ d'études. Et d'une certaine manière, la philosophie, je ne dis pas qu'elle va être reléguée, parce qu'il y en a qui vont toujours s'intéresser à ce questionnement, mais la philosophie, elle va beaucoup plus s'intéresser à la question du temps subjectif, vous voyez, le temps de la conscience, la phénoménologie. Mais voilà, donc il y a un changement. Mais il faut jamais oublier qu'au départ, les physiciens ne se conçoivent pas comme des physiciens, mais comme des philosophes, philosophes naturels. Newton est un philosophe naturel. Et cette séparation est récente, culturellement. Mais bon, la philosophie a toujours été liée aux sciences, c'est pas une matière littéraire. Même si elle n'est pas non plus une matière scientifique, au sens... c'est pas une science, elle produit pas des connaissances, mais elle réfléchit sur les connaissances.
Le scientifique qui s'intéresse à la conception philosophique, c'est les neuroscientifiques.
Aujourd'hui, par exemple, il y a un champ... Voilà.
Eux s'inspirent des concepts philosophiques pour essayer d'expliquer les observations
c'est ça.
Neurosensorielles, du cerveau. Là, ils s'en servent.
Alors... Ben, je vais vous dire, tout à fait. Alors, en neurosciences, on s'intéresse beaucoup à la question du temps. Et puis, je vais aussi vous dire que, alors là, une certaine école de la psychiatrie s'intéresse beaucoup aux travaux de la phénoménologie sur le temps, aux travaux des philosophes. Il y a un célèbre psychiatre qui s'appelle Minkowski, qui a écrit un livre qui s'appelle Le temps vécu, qui se réfère à Augustin, Bergson, etc., et qui réfléchit sur la schizophrénie, sur les maladies mentales à partir de ce que disent les phénoménologues de l'expérience du temps. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'intéressant qui peut tout à fait effectivement stimuler la recherche médicale et psychiatrique, par exemple. Mais vous voyez, il y a des branches diverses. Hein. Bon. Vous avez des psychologues comme Piaget qui se sont intéressés à la formation d'intelligence chez l'enfant, qui sont intéressés à la manière dont la notion de temps se constitue chez l'enfant.
Oui, parce que chez l'enfant, la notion
voilà.
n'existe pas.
Oui, au départ, non.
Dans le présent, parce que c'est voilà. Pas
oui, et puis c'est qu'à partir du moment où il devient actif, voilà. qu'il peut construire des schèmes d'action et commencer à s'élever à une certaine abstraction. Ce qui n'est pas immédiat. Donc, vous voyez, donc, y a, donc c'est un champ d'étude. Mais alors, la différence, si vous voulez, entre, par contre, entre ces recherches-là, comme celle de la psychologie les neurosciences, c'est qu'on s'intéresse pas, on ne se pose pas la question de la nature du temps. Non. Voilà, c'est une question philosophique qu'on laisse de côté. On opère, on est opératoire. Hein, voilà, ça, c'est autre chose. Vous voyez, c'est une autre approche.
Le temps a expliqué, par exemple, le souvenir.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est que le souvenir? On cherche à montrer que certains endroits du cerveau.
Ah oui, exemple, oui. Oui, alors là, ça reste un peu limité, ça, par contre.
Oui. Alors, sachant que maintenant, dans les derniers travaux, on s'intéresse plutôt au concert, on considère que le cerveau, c'est une forme de strate successive qui coopère peu entre elles. Simple, la strate du dessus, en dessous, mais pas les autres, pour des raisons thermodynamiques. C'est des notions de thermodynamique qui sont introduites, qui permettent de comprendre comment fonctionne le cerveau maintenant, parce qu'il dépense une telle énergie que s'il fallait, pour faire du vélo, par exemple, occuper tout son cerveau, c'est pas possible. On peut faire du vélo pendant quelques minutes, puis on finirait par tomber parce que le cerveau s'est épuisé. Donc en fait, c'est des strates. Une strate fonctionne sans s'occuper de l'autre.
Oui, mais alors, si vous voulez, avec cette approche-là, vous pouvez expliquer ce qui se passe dans le cerveau quand vous vous souvenez, mais vous ne pouvez pas expliquer ce qu'il en est du souvenir. Ce qui reste énigmatique, c'est qu'est-ce qui fait que le souvenir évoque tel passé. Et ça, vous ne pourrez jamais obtenir une réponse à ce genre de questions par la simple observation IRM. Vous savez simplement qu'il se passe telle chose dans le cerveau quand il y a telle activité, c'est tout.
Oui, mais non, il y a une approche différente dans le syndrome post-traumatique, donc les vétérans du Vietnam, qui ont été étudiés par les neurosciences américains, les neurosciences américains, où on a montré qu'ils revivaient un souvenir extrêmement douloureux de façon répétée, sous forme de cauchemar,
ah oui.
Bien fou. Et bien ça, on s'est bien montré maintenant par l'IRM fonctionnelle, on voit très bien des circuits. Et le lobe frontal, qui est le lobe des émotions. Et on peut, par le médicament ou par la méditation en pleine conscience ou l'hypnose, couper ce passage.
Circuit.
Donc, ce circuit. Et donc ce souvenir néfaste disparaît. Donc il y a quand même un support neuroanatomique.
Ah non, mais ça. On revient à la question de la mémoire, là. On en avait parlé. Et il y a bien sûr qu'il y a un support. Il n'y a pas d'activité de conscience sans support physiologique.
Le cerveau trie les souvenirs. Pourquoi on se souvient d'un certain souvenir et pas d'autre?
Personne ne va nous répondre.
Manger dans un restaurant café toile alors que j'ai vu un opéra la veille, je ne me souviens pas d'opéra.
Oui, mais ça, c'est la question de la mémoire, ça. On a déjà vu ça. On revient là-dessus. Non, mais je suis d'accord, mais je ne crois pas que l'explication purement cérébrale puisse avoir le dernier mot sur la question.
Non, non.
Elle, par contre, effectivement...
Ça avance beaucoup quand même.
Ah oui, c'est certain.
Parce que quand même, le sujet de la réflexion est plus vaste que notre temps présent. Quoi. C'est,
Le temps et la mémoire sont liés.
C'est
une
explication quand même par rapport à l'éternité, quand même, au départ, pour comprendre. La science, elle a des réponses, mais peut-être dans d'autres domaines.
Oui. Non, mais les sciences ne répondent qu'aux questions qu'on leur pose, qu'elles se posent. C'est-à-dire qu'il y a des hypothèses, et puis on essaie de les valider. Les hypothèses ont un rôle fécond, elles permettent de stimuler la recherche. Et c'est comme ça que les sciences ne prétendent pas révéler des certitudes. Elle travaille, c'est vrai qu'elle se pose pas, la science ne se pose pas la question de l'essence du temps, une question philosophique. Et c'est pas une critique de la science, c'est simplement autre chose. Bon, je pense qu'on peut arrêter là, et je vous remercie. Alors la prochaine séance, c'est le 21, je crois. Regardez bien sur le site de l'association. Vous avez le programme.